toutes les mers, aviateur de tous les ciels, artilleur, fantassin, cavalier de tous les pays, tué par la guerre, je vous appelle.
La grande guerre à hauteur d'enfant.
Comment est le drapeau de la France?
Le blanc rouge.
Le blanc rouge.
Et pourquoi est-il bleu blanc rouge?
Parce que.
Margon.
Bleu.
Debout.
Bleu c'est la ville. Blanc c'est les blessés. Et rouge c'est les morts.
Ce 11 novembre, le président de la République sera requis par de nombreuses activités commémoratives. L'une d'elles a consisté à récompenser les classes de CM1, CM2 qui ont remporté cette année le concours devenu classique des petits artistes de la mémoire. Les instituteurs de la Grande Guerre seraient bien étonnés de voir un siècle plus tard comment les gamins de 2014 racontent 1914. Le devoir de l'école est aujourd'hui de recommander la paix et la compassion. Les enseignants il y a un siècle, l'entendait autrement. Ce qui se disait dans les salles de classe était programmé, peut-être reconstitué. Mais comment retrouver ce qui s'échangeait dans les cours de récréation, les parties de marelles ou de ballons? Les enfants de 14, devenus les adultes de 40, ont eux-mêmes reconstruit leurs souvenirs. Quant aux arrière-petits-enfants qui s'intéressent de nouveau à l'époque, ils sont tentés d'y appliquer un vocabulaire d'aujourd'hui. On étudie depuis longtemps les fronts militaires, on commence à bien connaître les fronts domestiques, le couple, la famille. Comment regarder la Grande Guerre à hauteur d'enfant?
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Manon Pignot, bonjour.
Bonjour.
Vous savez ce que les poilus disaient des gens de l'arrière, pourvu qu'ils tiennent, les historiens de 14-18 tiennent le coup?
Ah oui, je pense que c'est quand même c'est un grand moment pour nous. Il faut qu'on en profite.
Vous publiez beaucoup chez Paris Gramme, Paris pendant la Grande Guerre, et à la suite de vos nombreux travaux sur les enfants en 14-18, un chapitre de la gigantesque Cambridge History de la Première Guerre mondiale, qui paraît en anglais et en français, chez Fayard simultanément. Alors surgissent sans cesse de nouvelles archives familiales, et puis vous diriez, Manon Pignot, que les enfants, ce n'est pas un groupe qui n'a pas parlé.
Absolument. Évidemment, ça n'est pas un groupe constitué au sens où il y aurait quelque part des archives estampillées, archives enfantines. Il suffirait alors d'ouvrir des cartons et trouver comme ça des verbatims des expériences enfantines. Mais malgré tout, en cherchant bien, on trouve différents modes d'expression émanant des enfants, des sources historiques produites par les enfants eux-mêmes. Alors bien sûr, les correspondances, qui sont maintenant des sources très bien connues et très utilisées par les historiens. Les journaux intimes, qui sont évidemment un moyen d'accéder comme ça à l'univers quotidien et parfois même routinier des enfants. Et puis, des formes d'expression alternatives comme les dessins.
Crayon de la guerre, c'est aussi le titre d'un de vos ouvrages. Alors, c'est plus difficile de reconstituer quand même les jeux qui se déroulent tels les châteaux de sable de façon éphémère. Les enfants jouent spontanément à la guerre. C'est embêtant, ça, pour les historiens souvent pacifistes d'aujourd'hui.
Oui, je crois que c'est vraiment... Là, on touche à quelque chose de l'universel de l'enfance. Les enfants jouent à la guerre. Mais ce qui est intéressant de voir dans un contexte guerrier précis, c'est comment... l'environnement militaire guerrier va imprégner ce jeu de guerre traditionnel, ce que j'appellerais le jeu de guerre traditionnel, on peut lui donner d'autres noms, hein, le gendarme et le voleur, les cow-boys et les indiens, et comment donc le contexte de guerre précis va imprégner, voire contaminer avec un vocabulaire, avec des gestes aussi, les jeux enfantins.
On va entendre au long de cette émission quelques extraits du téléfilm de Maurice Pialat avec Maurice Pialat lui-même, 71, La Maison des Bois, puis aussi des extraits, des enregistrements que vous nous aviez confiés, que vous-même avez faits. On les trouve d'ailleurs en ligne, c'est indiqué sur notre site, avec des petits garçons et des petites filles devenues des personnes d'âge très avancé.
On tire à la courte paille pour celui qui sera le boche.
On jouait à la guerre beaucoup. Mais alors, vous n'êtes jamais les Allemands. On se disputait pour savoir qui seraient les Français, qui seraient les Allemands.
Quel boche?
Non, je veux pas être le boche.
On jouait à la guerre, quoi. On était dans un état de guerre. Alors, on savait que c'était comme ça. On savait qu'il y avait des hommes qui tombaient, qui étaient tués. Mais on était habitués, on était là-dedans. C'était un état naturel, oui. On changeait les sangs patriotiques. Moi qui venais de perdre mon père, je sentais mais de tout mon cœur mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau. C'était merveilleux d'avoir un père qui soit mort pour la France.
J'ai gagné en vertu des pouvoirs qui me sont confirmés et vous fait chevalier de la Légion d'honneur.
Voilà, on joue même à la distribution de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. En vertu des pouvoirs qui me sont confirmés, dit l'enfant.
Oui, on trouve ça dans les témoignages postérieurs, hein, comme ceux que j'ai pu avoir la chance de recueillir dans le cadre de ma thèse, mais aussi dans certaines enquêtes menées pendant la guerre par des sociétés savantes, des associations pédagogiques, d'instituteurs, des associations philanthropiques aussi, qui récoltent des témoignages d'instituteurs qui racontent ce qui se passe dans la cour de récréation sans intervenir et qui décrivent ce qui se passe. Et ça confirme absolument ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que voilà, on joue à la tranchée, on essaye de trouver toujours un désigné volontaire qui veut bien se charger d'être le boche de service. Et puis, pour les petites filles, je pense notamment à cette enquête qui s'appelle « Nos enfants et la guerre », qui est parue en 1917, et qui raconte une scène tout à fait incroyable. Les petites filles jouent à la réception de la lettre qui annonce la mort du mari. Et donc, elles vont mimer l'ouverture de la lettre, la syncope, la mère de famille qui tombe en syncope, etc. Mais c'est un jeu dans la cour de l'école.
Les petites filles sont devenues, quand elles sont vos témoins, de vieilles dames charmantes. Je ne sais pas si vous avez identifié telle ou telle.
Oui, je crois que c'était Madame Lardy qu'on a entendu.
Madame
Lardy.
Alors justement, l'expérience des petites filles et l'expérience des petits garçons. Un historien bien constitué doit être un peu pacifiste et genré.
Je ne crois pas que le concept de genre doit être utilisé de manière systématique. Simplement, moi, je l'ai utilisé comme un outil parmi d'autres et qui est opératoire dans certains cas, dans certains lieux de la guerre, dans certains temps de la guerre, mais qui ne l'est pas dans d'autres. Si on prend la vie quotidienne de l'arrière, je dirais, les questions d'alimentation, de vie quotidienne, finalement, on se rend compte qu'il y a assez peu de différence entre les expériences des petites filles et les expériences des petits garçons. C'est évidemment complètement différent si on se place à l'échelle du discours, puisque là, il y a très clairement un discours très genré, pour reprendre votre expression, qui s'adresse aux garçons et un autre qui s'adresse aux filles. Et de la même manière, dans certains lieux de la guerre, dans certains temps de la guerre, et je pense notamment à la zone occupée qui va cristalliser les rapports de force et les distributions de rôles, à ce moment-là, les différences entre les expériences féminines et les expériences masculines se creusent, s'accentuent, s'intensifient. Et les expériences enfantines n'échappent pas à la règle.
Les éditions du Cerf rééditent l'album qu'a dessiné et écrit le petit Yves Congar, qui deviendra un important théologien, cardinal de la Sainte Église catholique. Et en même temps, vous avez lu le journal que sa sœur tenait. L'un et l'autre étaient à Sedan, en zone occupée. Il faut se souvenir que 10 départements étaient partiellement ou totalement occupés.
Absolument. C'est grâce aux descendants d'Yves Congar, Dominique Congar notamment, que j'ai pu accéder au journal de sa sœur aînée, Marie-Louise, qui n'avait que 2 ans de plus que lui. Et c'est une expérience très intéressante de comparer ces deux journaux qui ont été tenus conjointement, écrits conjointement. D'ailleurs, on retombe. Il est vraisemblable qu'ils aient dû copier l'un sur l'autre de temps en temps pour remplir le journal. Journal qui était une commande de la mère, comme c'est très souvent le cas, c'est les parents qui incitent « Nous vivons des temps exceptionnels, il faut que vous teniez votre journal de guerre ». Mais dans cette comparaison, je dirais presque quotidienne, jour après jour, des deux journaux, on voit poindre des différences qui sont relatives justement au genre, au sexe de chacun des diaristes. Et par exemple...
Ça y est, j'ai réussi à vous faire dire sexe.
Absolument. Oh, ça ne me pose pas tellement de problème de prononcer ce mot, rassurez-vous. Mais par exemple, donc, ils sont en zone occupée, et c'est vrai que en zone occupée, le lieu de l'affrontement se déplace dans la sphère domestique. C'est la maison qui devient vraiment le lieu de l'affrontement avec l'occupant, avec l'ennemi. Et du même coup, les femmes se retrouvent, entre guillemets, en première ligne. Elles sont les combattantes de cette zone occupée. Et on se rend compte, en lisant le journal de Marie-Louise Congar, qu'elle a une manière de vivre l'occupation, c'est-à-dire la prise de possession de la maison par l'occupant, bien plus viscérale et bien plus intense que son frère Yves.
Ici, une ancienne petite fille, à la fin de sa vie, elle ouvre encore des yeux ronds face aux souvenirs de la guerre. Nous sommes en 88, c'est Françoise Dolto.
J'entendais beaucoup de choses qui étaient pour les grands, qui n'étaient pas pour moi et que j'enregistrais. Je me disais que, comme c'est idiot, il y avait la dame, je crois qu'elle est vraiment très bête. Quoi, que ce que tu dis? Et pourquoi est-ce qu'elle est bête, cette femme? Alors, parce qu'elle est venue ici, elle avait perdu son fils, et puis elle est venue ici, elle aurait mieux fait de le chercher. J'avais pas encore compris, c'était juste le début de la guerre, que perdu, ça voulait dire être mort, qu'il était mort. Il a fallu, et au lieu de me l'expliquer, m'a simplement puni, comme toujours, c'était la mode privée de dessert, j'étais perpétuellement privée de dessert, pour avoir dit quelque chose que j'aurais pas dû dire, mais je l'aurais jamais dit si on m'avait pas posé la question « à quoi penses-tu ?»
C'est étrange cette situation pour les enfants et les adultes leur paraissent bien bizarres.
Oui, les souvenirs de Françoise Dolto, qu'il s'agisse de ses souvenirs écrits ou de ses souvenirs enregistrés qu'on vient d'entendre, sont vraiment extrêmement utiles pour l'historien et pour toute personne qui s'intéresse à la Grande Guerre. Elle décrit dans ses souvenirs cette même scène de cette femme qui a perdu son fils et qui, au lieu de le chercher, vient pleurer dans le salon. Elle décrit aussi l'état quasiment hystérique dans lequel se trouve cette femme qui pleure de telle manière qu'on dirait qu'elle rit. Et elle raconte que, petite fille, elle a été extrêmement frappée par ça, par cette femme qui riait aux larmes, qui riait comme une folle. Et c'est vrai que c'est une manière différente d'aborder des questions comme le deuil, mais de les aborder du côté, je dirais, du ressenti presque physique, de la réaction incompréhensible pour les enfants.
Néanmoins, Françoise Dolto, quand elle s'appelait encore Françoise Marette, qu'elle n'avait que 6 ans, écrivait à son oncle adoré « J'espère que t'as tué beaucoup de boches ». C'est-à-dire qu'elle était, comme les autres enfants, la cible d'un discours de guerre, de mobilisation qui était tenu à l'école, qui était tenu dans la presse enfantine, qui était tenu par les marchands de jouets.
Oui, c'était son oncle Pierre, qui était également son parrain, le frère cadet de sa mère, qu'elle aimait éperdument, avec lequel elle espérait se marier plus grande. Et quand son oncle Pierre est d'ailleurs mort en 16 aux Éparges, elle se considérait d'elle-même comme veuve de guerre à 7 ans. Et je crois que c'est tout à fait révélateur du caractère extrêmement à la fois protéiforme et mixte et complexe de l'expérience de guerre enfantine. C'est-à-dire que selon le temps de la guerre aussi, les enfants sont pris dans ce discours de mobilisation au début de la guerre, donc dès la rentrée des classes de 1914, avec un certain enthousiasme, il faut bien le dire, ce discours de stigmatisation de l'ennemi. Mais au fur et à mesure que la guerre dure, on voit évoluer le rapport des enfants à ce conflit et on voit naître des réflexions, plus nuancées sur cette guerre.
On va y venir, mais dès Noël 14, on a calculé le nombre de nouveautés qui, dans les grands magasins parisiens, étaient proposées en termes de jouets. 50% concernaient la Grande Guerre. Et vous avez consacré aussi des études à la presse pour enfants. Alors la semaine de Suzette Bécassine, la marquise de Grantaire, sa patronne, est requise par les nécessités de la guerre, réduit la voilure et Bécassine va devenir espionne et se rendre de grands services à la France. Et puis il y a aussi un autre groupe qui s'appelle Fillette.
Oui, c'était le journal concurrent de la semaine de Suzette juste avant la guerre et qui s'adressait à une catégorie peut-être un peu plus populaire parce que c'est un journal qui était publié par la maison, la Société parisienne d'édition, dirigée par les frères Hoffenstadt et qui publiait également l'épatant dans lequel paraissaient, ou plutôt dans lequel sévissaient les pieds nickelés.
Oui, parce qu'ils sévissaient les pieds nickelés quand ils avaient un prisonnier allemand entre les mains, ils le tabassaient. Hein.
Oui, mais c'est justement ce qui est tout à fait frappant de cette mobilisation de la presse enfantine au moment de l'entrée en guerre, c'est que les pieds nickelés qui, avant-guerre, étaient, disons, affreux, sales et méchants, anarchistes, véritablement, et qui avaient très mauvaise réputation auprès des parents, auprès de certaines catégories, notamment l'abbé Bethléem, qui condamnait fermement la lecture de l'épatant et des pieds nickelés, les pieds nickelés s'engagent et font, comme leur auteur, Forton, partent sur le front des Dardanelles.
Alors pour vous, l'enfant héros, Barat, pendant la Révolution française, mort au combat tout jeune, c'est un peu un fantasme d'adulte. Il y a eu des enfants héros ?
L'enfant héros, c'est vraiment une figure littéraire, une figure proprement fictive. Hein. Le jeune garçon au fusil de bois qui va tout seul affronter l'ennemi, c'est une figure littéraire qui est extrêmement utilisée justement pour endoctriner la jeunesse et pour la mobiliser sur le thème du devoir et du sacrifice. Chacun à votre niveau, vous pouvez participer à l'effort de guerre et œuvrer pour le salut de la France.
Mais Émile Després, qui a donné à boire dans le Nord occupé à un sergent français et à qui les Allemands promettent la vie sauve, s'il exécute le français et du coup avec l'arme qu'on lui donne, il tue l'Allemand, c'est un personnage imaginaire ?
On n'a pas vraiment réussi à identifier le personnage d'Émile Després. C'est largement un mythe de guerre. En revanche, celui qui n'est pas du tout un mythe de guerre, c'est Jean-Corentin Carré, qui lui a bien existé. Mais lui, ça n'est pas un enfant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il réussit à s'engager, c'est parce que c'est un adolescent. Mais il est très jeune, hein, il a 15 ans, il ment sur son âge, il ment sur son nom, il se fait passer pour un réfugié de la zone occupée, et c'est pour ça qu'il aurait perdu ses papiers. Et il s'engage dans l'armée française en 1915, et il fait toute la guerre, et il meurt une fois qu'il est passé dans l'aviation en 1918, il meurt au combat.
Un monument à sa mémoire au Faouette en Bretagne, un monument maintenant musical. Debussy signait à l'époque Claude Debussy, musicien français, Charles Panzera interprète ici son Noël de 1915 qui est dédié aux enfants des zones occupées. Nous n'avons plus de maison, les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Petit Noël, n'allez plus chez eux, les Allemands, venger les enfants de France, les petits Belges, les petits Serbes, les petits Polonais aussi. Manon Pignot, notre invitée, on parle des enfants pendant la Grande Guerre. Votre petite-fille ou votre petit-fils a chanté dans une chorale de son école l'année dernière ?
Absolument.
Cette chanson,
mon fils est né, oui. Ouais.
Noël, Noël, surtout pas de joujoux, tâchez de nous redonner le pain quotidien. La guerre s'inscrit dans la durée et les enfants vont avoir un rôle à mesure que passe le Noël 14, le Noël 15, le Noël 16, le Noël 17, que les restrictions gagnent du terrain, que le froid sévit.
Oui, je crois que la question de la temporalité, elle est fondamentale pour tout individu qui vit cette expérience de guerre. Et pour les enfants, peut-être encore davantage, dans la mesure où le rapport au temps est différent pour les enfants et pour les adultes. Ça nous ramène encore à Françoise Dolto, mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que le temps de la guerre devient le temps normal, le temps de référence. Et du coup... au moment de la sortie de guerre, forcément, l'incompréhension ou ça rend très difficile de la compréhension de l'événement de la sortie de guerre, parce que finalement, ce rythme très particulier du temps de la guerre, ce rythme lent, ce rythme ponctué par la question des nouvelles, des lettres, ce rythme marqué aussi par l'absence des pères.
Et la file d'attente. Vous parlez des stratégies d'endurance que les enfants, recommandés par les parents, mettent au point. Pour aller chercher les courses, pour aller chercher le charbon.
Oui, les stratégies d'endurance, elles sont à la fois matérielles et affectives. C'est toutes les toutes les techniques, disons, mobilisées pour pouvoir tenir et supporter la guerre. Et effectivement, les enfants sont, en particulier évidemment les enfants des classes populaires, sont fortement employés par leurs parents et par leurs mères pour pouvoir subvenir, notamment, bon, je pense aux grandes villes et par exemple à Paris où il y a un rationnement qui est mis en place à partir de 1916. Il est assez fréquent que les enfants, avant d'aller à l'école, commencent à faire la queue devant les boutiques pour donner un coup de main à leur mère. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de différence de sexe ou de genre, filles et garçons sont employés de la même manière à prêter main forte à la mère de famille.
Puisque vous avez parlé de Dolto, alors elle s'était habituée dans la durée à parler comme il fallait. Et alors quand on lui demandait à quoi tu penses, au lieu d'émettre une bizarrerie, elle répondait ?
Elle répondait, je pense aux pauvres soldats qui sont dans les tranchées. Et comme ça, on lui fichait une paix royale. Parce qu'à chaque fois qu'elle disait la vérité, ce à quoi elle pensait, elle se faisait punir immanquablement. Donc elle avait trouvé la parade absolue. Et ça, je crois que c'est assez révélateur aussi de cette, à la fois, encore une fois, de ce mélange entre l'efficacité du discours de guerre qui prend sur les enfants, qui arrive à atteindre son objectif, et puis une forme de banalisation de ce discours de guerre qui fait que, bon, au final, on arrive à s'en accommoder et même parfois à s'en servir pour avoir la paix vis-à-vis des adultes.
Vous citez quand même cet enfant qui écrivait dans une rédaction « J'ai de la pitié pour les mutilés » et l'institutrice, avec l'encre rouge de l'époque, remplaçait pitié par admiration.
Le blessé, c'était pour nous, enfants, c'était le spectacle cruel de la guerre. Les infirmes, les boiteux, les jambes coupées, les aveugles, ils ont longtemps eu l'autorisation de porter leur uniforme parce que c'était une sorte de distinction.
Je me souviens très bien d'avoir vu un cul-de-jatte. J'étais très étonnée. Il était dans une petite caisse avec quatre roulettes. Il avait des fers à repasser à la main, les fers à repasser d'autrefois en fonte. Mmh. Et il avançait comme ça sur le trottoir. Et j'étais ébahie.
Encore deux de vos témoins, bien oui. Enregistrés. Hein.
Monsieur Bureau et Madame Schweitz.
Ce sont les enregistrements pour la thèse, mais qui sont utilisables pour la radio et qu'on peut retrouver sur un site. Vous les avez mis,
oui, je les ai mis
à la
en
disposition
ligne pour
du
que
public.
Ça puisse profiter à tout le monde.
Je rappelle que ce site, on en trouve le libellé sur le nôtre. Propre. Le mutilé, ça donne un rôle nouveau à l'enfant, si c'est lui qui doit conduire l'aveugle, soutenir les clopés.
C'est effectivement un thème qu'on retrouve beaucoup dans les dessins notamment, et on le comprend, hein, en particulier dans les dessins des enfants parisiens, puisque Paris étant une espèce de plaque tournante ferroviaire, il y a beaucoup de passages. La vision des mutilés dans la rue, des amputés, des aveugles, et puis les cas extrêmes comme ça de cul-de-jatte dans des petites voitures, frappe beaucoup les enfants, de voir d'autres enfants qui sont amenés à les pousser dans cette espèce d'inversion des générations. C'est plus les adultes qui prennent soin des enfants, c'est les enfants qui prennent soin des adultes mutilés, diminués, atrophiés. Et je crois que ça frappe beaucoup les jeunes observateurs qui ensuite les retranscrivent dans leurs dessins.
Allez, je cite une dernière fois Françoise Dolto, parce que vous pensez que la psychanalyse a beaucoup à apprendre à l'histoire, notamment sur ce thème, le père est maintenant tenu à distance, même s'il y a une correspondance, ce sang des familles, dit Michel Perrault, qui s'établit entre le père et ses enfants.
Et oui, c'est toute la difficulté hein, des relations entre le père et les enfants pendant toute la guerre, c'est-à-dire qu'il est loin, il manque, la correspondance, effectivement vous vous rappelez cette expression merveilleuse de Michel Perrault, le sang des familles, la correspondance est un moyen d'essayer de maintenir le père de famille dans ses fonctions traditionnelles, de pater familias, de père censeur, de père punitif, mais c'est aussi un moyen, et là un moyen inédit, je crois, hein, vraiment qui s'inaugure pendant la guerre, d'exprimer des sentiments, d'exprimer son amour paternel tout simplement, parfois en termes extrêmement tendres et que nous, lecteurs de 2014, on ne s'attendrait pas forcément à trouver dans des lettres de 1914.
Enfin, les pères aussi font preuve d'autorité à distance quand il le faut, parce qu'ils craignent de perdre leur pouvoir ou bien de n'être pas reconnus. Les permissions, il y en a seulement à partir du printemps 1915. Elles sont attendues, mais très rares. Et souvent, l'enfant a quelques difficultés à reconnaître son père.
Tu t'entends bien avec tes copains ?
Bien sûr.
Il pleut, mon chériot ?
Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait, C'est moi qui l'ai fait.
T'as vu les photos?
Non. Bien. Ouais. Joli tableau.
Regarde les poches qu'ils ont.
Regarde. Ils sont bien partants, les soldats.
Pourquoi t'as une moustache et là t'en as pas?
Bah, parce que j'ai rasé.
Et là où c'est tué?
Ça, c'est un matin.
Nous venons tous de chanter en chœur parce que nous sommes très heureux en ce jour de victoire. Mais je vous demande de penser, et vous le savez tous, qu'il y a des milliers et des milliers de Français qui ne reviendront jamais chez eux. Et vous savez qu'il y en a beaucoup dans ce village que nous ne reverrons pas. Alors je vous demande de penser à eux aujourd'hui. Hein.
Ma mère était toute seule avec moi. Donc elle ne s'occupait que de moi. Elle ne parlait qu'à moi. Elle avait le grand lit conjugal. Bon, pour plus de sécurité, elle me couchait à côté d'elle. Et quand mon père est revenu, il a fallu que je cède la place. Mais il paraît que j'ai fait aucune difficulté pour aller dans un autre lit. C'est pas ça. C'est qu'à table, ils avaient 4 ans passés à rattraper. Ils parlaient ensemble. Et moi, j'avais plus mon mot à dire. Ah, ça m'a bouleversée d'ailleurs, oui. Et je me souviens très bien que j'ai reçu 4 fessées dans ma vie le même soir. Parce que j'étais tellement hors de moi que je lui ai dit, j'ai prié mon Dieu pour que tu reviennes de la guerre, j'ai prié pour que tu y retournes.
Alors nous sommes après le 11 novembre, qui nous a déjà réservé un moment singulier dans la Maison des Bois, Piala chantant lui-même la Marseillaise. Et Simone, c'est une de vos témoins, qui n'a pas sa langue dans sa poche, dit, j'ai prié pour qu'il rentre au front, le père envahissant et intrus.
Simone Camon, oui, je suis très émue de l'entendre parce que c'est vrai que c'est parmi tous les témoignages que j'ai recueillis, je crois que c'est vraiment mon préféré. Et on voit encore la force du souvenir, hein, 80 ans après, toujours aussi nette, et qui traduit bien les difficiles modalités du retour des hommes. Retrouver sa place, et notamment auprès des enfants, ses pères, que, comme vous l'avez dit, les permissions n'ont permis que de découvrir ou de connaître de façon extrêmement fugace et qui soudain reviennent et tout naturellement se réinstallent et avec lesquels il faut désormais parler, réagir, auxquels il faut désormais obéir, ce qui ne va pas forcément de soi. Et c'est vrai que le témoignage de Simone Camon, de ce point de vue-là, est assez exceptionnel.
Manon Pignon, le souvenir de l'armistice est très fort, surtout qu'il fait contraste avec celui de la débâcle de 40. C'est la même génération qui était enfant en 18 qui a connu la débâcle en 40. L'expérience de la Grande Guerre, dites-vous, n'a pas été forcément déterminante néanmoins pour tous.
Non, je crois qu'effectivement, il y a certains types d'expériences qui sont fondatrices. Évidemment, l'expérience du deuil, l'expérience des orphelins, l'expérience de l'occupation. Mais que pour un certain nombre d'enfants qui ont vécu la guerre et qui ont pu être d'une manière ou d'une autre plus ou moins épargnés, qui ont vécu la guerre un peu à distance, la distance géographique joue quand même beaucoup, l'expérience de guerre n'est pas forcément fondatrice. Et parmi les témoins que j'avais entendus, certains me disaient « mais une expérience de guerre de 14, mais je n'ai pas d'expérience de guerre de 14 ». Et ils parlaient bien sûr, pour eux, la seule expérience qui tenait, c'était celle de 40.
Merci à vous Manon Pignon. Un livre au seuil sur ce sujet. Allons enfants, votre contribution à la Cambridge History, tome 3, chez Fayard, Paris, pendant la Grande Guerre. Et au programme de Mathieu Vidard.
Un invité de marque, Jean Lebrun, Philippe Descola, l'anthropologue, est avec nous dans un instant.
Et il rentre, je crois, d'Amérique du Sud, il y a de cela peu de jours. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Vincent Godard, la préparation Virginie Leduo, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco.